Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et vous l'avez entendu, priorité à l'info sur l'antenne d'Europe 1. Si des nouvelles nous parviennent avant 15h, Franck Ferrand s'effacera devant la rédaction. Bonjour Franck.
Évidemment. Bonjour Céline, bonjour à tous. L'histoire sait à l'occasion s'effacer devant l'actualité et je dirais que c'est bien la moindre des choses.
On va célébrer cette année le bicentenaire de la mort de Murat, une occasion que vous ne pouviez laisser échapper.
N'est-ce pas? Alors on va parler tout à l'heure, on va raconter cette mort violente de Murat. Encore plus près de nous, il faut dire que dès demain nous serons le 25 mars et que le 25 mars c'est le jour anniversaire de Joachim Murat puisqu'il est né un 25 mars en 1767. Alors j'ai demandé à trois grands connaisseurs du personnage de nous accompagner cet après-midi. Le prince Joachim Murat qui est le descendant direct de notre personnage. Louis Sampion Bouglione qui m'a donné l'idée de cette émission et qui a beaucoup étudié la correspondance de Murat. Et puis son plus récent biographe. On peut dire que la biographie est encore toute chaude. Elle est passionnante. Nous allons revivre toute la vie de Murat, roi de Naples. Son auteur, c'est Vincent Aiguelet. Son ouvrage est sous-titré « La solitude du cavalier ». Vous verrez pourquoi dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Nous sommes dans le Quercy, dans un petit village qui s'appelle la Bastide Fortunière, qui depuis a été rebaptisé et que vous connaissez sous le nom maintenant de la Bastide Murat, évidemment. Nous sommes dans une auberge. Quand je dis une auberge, c'est vraiment quelque chose de très modeste comme il pouvait en exister en cette fin du XVIIIe siècle, milieu fin du XVIIIe siècle. Il faut imaginer une salle commune enfumée de là par un escalier qui conduit à deux ou trois chambrettes. Et bien c'est là, c'est dans une de ces petites chambres que Jeanne Loubière va donner naissance au petit Murat, au petit Joachim. Elle est mariée, cette dame, à l'aubergiste. En vérité, on parle d'un aubergiste, mais si j'ai bien compris, on a plutôt affaire à une sorte de cultivateur qui arrondit ses fins de mois, si je puis dire, en louant des chambres. Il s'appelle lui-même Pierre Murat Jordy. Alors, ce personnage jouera un rôle. On va revenir sur la figure du père de Joachim tout à l'heure, bien entendu. Alors, dans un premier temps, notre jeune garçon est, comme on peut s'y attendre, palefrenier. Hein. Il s'occupe des chevaux, des voyageurs qui passent à l'auberge. Et évidemment, il passe beaucoup de temps à étriller, à brosser les chevaux et à les monter. Car très vite, il va se révéler un amoureux des chevaux, un cavalier hors pair. Et l'on verra jusqu'où cette passion des chevaux et cette extraordinaire capacité à faire corps avec eux hissera Murat. Néanmoins, il lui faut abandonner tout ça, il faut abandonner l'auberge, les chevaux et tout le reste pour faire des études au collège Saint-Michel de Cahors. Il va dans la foulée obtenir une bourse grâce à la protection de la famille de Talleyrand qui va lui permettre de suivre les cours du séminaire des Lazaristes à Toulouse. Nous étions à Toulouse il y a quelques jours. Nous nous sommes promenés dans les rues avec l'équipe d'Au cœur de l'Histoire. Nous avons pu voir à quel point les congrégations religieuses avaient laissé des traces dans la ville rose. Il y avait énormément de séminaires, énormément de collèges, etc. On est là, en l'occurrence, au petit séminaire où le moins qu'on puisse dire est que Joachim n'est pas un élève exemplaire. Il faut l'imaginer parfaitement indocile, batailleur, il monte des tripots, on le voit courir le jupon, faire le mur, enfin vous voyez exactement le genre d'élève qu'on aime bien dans un séminaire. Et puis un jour, il voit passer, c'est un peu ce que je vous dis là est peut-être un tout petit peu résumé, c'est l'image d'Épinal, mais enfin tout de même, il y a eu cette prise de conscience. Il voit passer un régiment, celui des chasseurs à cheval des Ardennes. Et alors là, plus question de carrière ecclésiastique. C'est dommage ça, parce que sa mère avait bien l'intention de faire de lui un prêtre. Elle avait tout fait pour. Il faut imaginer ce que c'était dans cette fratrie. On parlera aussi, tiens, évidemment de ses frères et sœurs. Mais il faut imaginer ce que pouvait être la vocation familiale. On l'avait littéralement programmée pour être prêtre. Plus question du tout. Joachim se dit qu'il veut lui porter cet habit vert avec les retroussis blancs, la culotte à la hongroise et les bottes à la hussarde. Oui, disons-le clairement, l'uniforme n'est pas pour rien dans la vocation militaire de Joachim. Il aime les beaux habits, il aura un grand nombre d'occasions au cours d'une carrière extraordinaire de le prouver. Vous savez que, évidemment, les tenues de Murat sont peut-être restées ce qui aujourd'hui le distingue dans l'histoire. En fait, on pense toujours à lui comme à cette espèce de personnage qui se présentait dans des tenues d'apparat absolument incroyable. Alors, il a 19 ans à l'époque. Il mesure 1m80. Il tient particulièrement bien à cheval. Vous imaginez s'il est bien accueilli chez ses chasseurs à cheval, bien entendu. Il est très vite maréchal des logis. Cependant, son caractère, cette espèce de tempérament indocile dont je vous parlais tout à l'heure, va lui jouer des tours. Plus le temps passe et plus il devient insupportable à ses supérieurs. Et finalement, cet indiscipliné, ce révolté même, n'ayons pas peur des mots, va finir par être cassé de son grade, renvoyé dans ses foyers. Il faut imaginer l'accueil que lui réserve la famille. Déjà, il avait beaucoup déçu sa mère en abandonnant la vocation religieuse. Et voilà maintenant qu'il est renvoyé de ce régiment, alors que c'était extraordinaire pour la famille, évidemment. C'était une carrière inespérée pour lui. Ça se passe très mal. Sa mère refuse de l'embrasser quand il rentre. Et son cabaretier de père va jusqu'à le maudire. Bref, il va falloir qu'il s'éclipse. Il va devenir commis épicier à Saint-Céré. Alors, on a beaucoup glosé sur l'origine parfois obscure d'un certain nombre des maréchaux de l'Empire. Et c'est vrai que d'imaginer Joachim Murat dans la peau d'un commis épicier, c'est toujours un peu, c'est très, comment dire, c'est assez folklorique. Mais en l'occurrence, il va, comme beaucoup, bénéficier d'un événement pour lequel, évidemment, il n'a rien fait au départ. Et c'est la Révolution. Un très grand nombre des carrières inouïes du début du XIXe siècle sont évidemment liées directement à la Révolution. En l'occurrence, il va être élu délégué de son département à la fête de la Fédération. Vous savez, la fête de la Fédération, c'est cette fête qui célèbre l'anniversaire de la prise de la Bastille. On est donc le 14 juillet 1790. Il va participer aux célébrations. Évidemment, c'est très difficile après ça de rendosser l'habit d'épicier, de commis épicier, vous l'imaginez. Donc, il va trouver le moyen de se faire verser dans la garde constitutionnelle du roi. Ça ne se passe pas bien. Évidemment, il n'épouse pas du tout les idées d'un certain nombre de ses camarades. C'est même le moins qu'on puisse dire. Il parle dans une lettre à sa famille, il parle d'un lieu infect. Et c'est vrai que ça n'est pas fait pour lui. Ça n'est pas fait pour lui. Il va finir par être réintégré dans les chasseurs à cheval. Voilà Murat donc bientôt sous-lieutenant, puis capitaine. Je vais très vite, évidemment, parce qu'on aura le temps de revenir sur tous les détails. Il est chef d'escadron. Alors, on est dans une période, évidemment, où il ne fait pas bon porter des noms aristocratiques. Or, il existe un comte Murat et pas le moindre. Et on dit, mais c'est un fils du comte Murat. Il a peut-être joué sur l'ambiguïté, ce qui expliquerait d'ailleurs ses accusations. Finalement, il va se faire appeler Marat, ce qui ne manque pas de sel. Et il prétend qu'il est parent du célèbre Marat, de l'ami du peuple, n'est-ce pas? En vérité, il ne fait pas bon être l'ami de Marat après les Thermidor. Lorsqu'évidemment le régime se ramollit un peu après la Terreur, évidemment, il faut changer de nom. Il va quand même être emprisonné. C'est une plaisanterie que j'avais faite, dit-il. Oui, mais c'est une plaisanterie qui ne passe pas. Je passe, moi, sur un certain nombre d'épisodes pour en venir à celui du 13 Vendémiaire. Vous savez, on est en 1795, au moment où Bonaparte va canarder littéralement les royalistes sur les marches de l'église Saint-Roch. Eh bien, celui qui, en ce jour du 13 Vendémiaire, est allé chercher au Sablon les 40 pièces de canon qui vont permettre à Bonaparte son exploit et son entrée dans l'histoire, s'appelle tout simplement déjà Murat. Thank you.
Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour avec vous Franck Ferrand à la vie de Joachim Murat.
Alors Murat a été repéré par ce jeune général Bonaparte. Il lui a permis, il a été celui qui avait apporté l'artillerie, si je puis dire. Il va en faire, Bonaparte va en faire son aide de camp, va en faire un proche, évidemment. Et c'est le début de la campagne d'Italie. Il faudrait citer ses exploits à Dego, à Mondovi, à Rivoli. Tout ça va, bien sûr. Il a déjà il a grimpé les échelons un peu, mais bientôt, il va être général. Et, nous dit André Castelot, il tombe amoureux de Maria Annunziata, la future Caroline. Un jour, nous dit-il, elle sera un monstre d'ambition. Seule comptera sa volonté sans scrupule. Pour l'instant, elle a 15 ans et possède de jolis bras, des petites mains ravissantes de forme et de blancheur, de petits pieds ritondotti, une peau éblouissante, de belles dents, une fraîcheur de rose et des épaules rondes. Et la jeune fille se met, elle aussi, à admirer, et disons-le assez vite, à aimer cette espèce de merveilleux sabreur qui porte l'uniforme comme personne. Je vous ai dit que l'uniforme était la raison de sa vocation militaire. Voilà ce que nous dit Jules Berthaud dans un ouvrage sur Murat. Dans cet habit bourguiffant, dit-il, qu'agrémente une paire de bottes étincelantes, il dresse son corps d'athlète à la tête sans noblesse, mais avec des traits taillés à grands coups de ciseaux, des cheveux crépus, de larges lèvres, des yeux brillants, lui compose une physionomie extraordinaire. Il est tout à la fois étrange et vaguement ridicule. On ne peut l'oublier une fois qu'on l'a vu. Évidemment que Caroline ne l'oubliera pas. Alors, ce portrait physique se double au moral d'un portrait tout à fait adapté. Il faut imaginer Murat impulsif, habile sans doute, mais aussi assez intrigant, mais aussi opportuniste. On aura l'occasion de le constater. Vous aurez compris que son goût du faste, son goût de l'éclat et des apparences le domine littéralement. Ça n'enlève rien à ses qualités militaires, bien entendu. Très brave sur le champ de bataille, dira de lui Napoléon plus tard, mais plus faible qu'une femme ou qu'un moine quand il ne voit pas l'ennemi. Il n'a aucun courage moral. Bon, ça c'est le Napoléon amer qui dira ça sur le tard. Mais tout de même, vous voyez que d'emblée, nous sommes en présence d'un personnage dont on peut dire que sa personnalité est assez controversée. Alors après l'Italie, il va y avoir l'Égypte, bien entendu. Ça va être de nouveau pour Murat l'occasion de s'illustrer. C'est très intéressant de voir quelles sont les relations entre Murat et celui qui bientôt deviendra le premier consul. Le jour où Caroline le prie de demander sa main à son frère, de demander sa main à Bonaparte, Joachim balbutie, le premier consul, c'est difficile de l'aborder. Vous le connaissez, comment prendra-t-il la chose? Et Caroline avait dit ce jour-là, je m'en chargerai. Elle avait mis Joséphine dans son jeu et Joséphine a accepté de s'occuper de la chose, espérant ainsi attirer le clan qui hait, qui a eu tendance constamment à la tenir en marge, pour ne pas dire un peu à l'écart. En vérité, on peut dire aussi de Murat qu'il a, dans cette période, su faire preuve d'un certain esprit politique. C'est ce qu'on découvre en lisant la biographie de Vincent Hégélé. Quelle était la vision, en quelque sorte, de Murat et qu'est-ce qui l'a amené jusqu'aux extraordinaires responsabilités qui vont être les siennes très bientôt? C'est ce que nous voyons dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Joachim Garraud. Joachim Murat, pardon.
Murat, oui, tout à fait. Nous parlons de Murat cet après-midi. Nous sommes tous un peu bouleversés et vous avez pu constater que Repin a bouleversé ses programmes pour répondre à l'actualité. Alors, nous sommes en présence, je vous le disais, d'un personnage dont la carrière va être extraordinaire. Bien sûr que Murat s'est illustré pendant la campagne d'Italie, pendant la campagne d'Égypte, y compris au moment du 18 Brumaire aussi, puisque c'est lui qui va disperser le Conseil des 500 tout de même. Il va gravir très vite les marches de la gloire. Il est commandant de la garde consulaire. L'intervention de sa cavalerie va assurer en 1800 à Bonaparte la victoire de Marengo. Il faut quand même pas l'oublier. Il sera nommé gouverneur de Paris. Bientôt, au moment de la transformation du consulat en empire, il va devenir maréchal d'empire en 1804. Il est prince, grand aigle de la Légion d'honneur en 1805. Il fait partie de ceux qui vont accompagner Napoléon dans ses exploits militaires. Il bat les Autrichiens à Neresheim et à Lambach. Il fait partie de ceux qui entrent à Vienne, évidemment. Il concourt à la victoire d'Austerlitz. Alors à ce moment-là, il devient grand-duc de Berg et de Clèves. On est là en 1806. On le trouve à l'avant-garde de la grande armée de Leipzig, d'Iéna, et on reviendra peut-être tout à l'heure sur son rôle lors de la bataille d'Iéna, Erfurt, Lübeck, Varsovie, Elo, bien entendu, à Friedland. Enfin bref, il est l'homme de toutes les grandes batailles. Il commande l'expédition d'Espagne en 1808. Et là, il va se passer un moment important, évidemment, dans sa vie et dans sa carrière, puisque, après avoir réprimé la révolte du Dos de Mayo, Charles IV d'Espagne l'investit de l'autorité royale. Et lorsqu'il va voir que Napoléon, finalement, choisit son frère Joseph pour être roi d'Espagne, c'est pour lui une grande déception. En compensation, l'Espagne va lui donner, vous le savez, le royaume de Naples. Ça, c'est à l'été 1808. Il va régner sous le nom de Joachim Napoléon. Alors là, je parlais de son amour du décorum, hein, et des fastes et des fêtes, mais alors là, à Naples, ça va prendre des proportions tout simplement extraordinaires, ce qui a peut-être un peu pour effet de lui donner dans l'histoire l'image un peu d'un roi d'opérette. On verra ce qu'il faut en penser réellement. Ça l'empêche pas, sur place, de promulguer un certain nombre de réformes, de constituer une armée très efficace. On le voit monarque éclairé, si je puis dire, privilégiant les arts, les sciences. Il va peu à peu prendre une certaine distance à l'égard de la politique de l'Empire, de son beau-frère, hein, qui est empereur des Français. Et Napoléon, néanmoins, lui confie le commandement de la cavalerie au début de la campagne de Russie en avril 1812. Rappelez-vous, nous avons raconté évidemment tout ça à ce même micro. Alors on va le voir s'illustrer à Smolensk, à la Moscova bien entendu. Il est battu à Vinkovo. À Smolensk, l'empereur lui remet le commandement de ce qui reste de la grande armée. On est là en 1812, hein, puisque lui est en train de... Vous savez qu'il a pris... il a taillé de court, il rentre à Paris. À ce moment-là, Murat va se décharger lui-même de ce commandement sur Eugène de Beauharnais. Il revient précipitamment à Naples, où il entreprend toutes sortes de négociations avec les ennemis. Mais néanmoins, après les victoires de Lutzen, de Bozen, il rejoint Napoléon, il prend part à la bataille de Dresde. On peut dire que après la défaite de Leipzig, il y a un gros moment de flottement, c'est même le moins qu'on puisse dire. Il est de retour à Naples, et là, il va traiter avec l'Autriche, avec l'Angleterre. On arrive dans la partie difficile de la vie de Murat, bien entendu. On va voir tout à l'heure ce que nos trois invités peuvent dire pour expliquer tout cela. Il est quand même chassé par les Bourbons de son trône, bien entendu, puisque les Bourbons et les légitimistes vont vouloir reprendre le trône de Naples. Il va faire à ce moment-là, on est bientôt au moment des 100 jours, il fait à Napoléon ses offres de service, et on sait quel sort Napoléon réservera à cette offre de service. Le voilà réfugié en Corse, il tente de reconquérir à partir de là son royaume napolitain. Il va débarquer à Pizzo, en Calabre, en octobre 1815, et c'est là qu'il est capturé, qu'il est jugé, si l'on peut dire, qu'il est expédié, devrait-on dire, peut-être plutôt par une commission. Voilà ce que nous dit Vincent Aiglet dans Murat, la solitude du cavalier. Il nous dit que cette commission, composée d'hommes qui, au dire des fidèles de Murat, devaient tous leur carrière aux bontés de ce dernier, a bien entendu été accusée de toutes les turpitudes. En réalité, bon nombre de ceux qui y figurent sont issus des rangs du légitimisme. Du reste, ils n'ont pas à juger, mais à signifier à l'intéressé sa condamnation sans possibilité de recours. Pour ce faire, avec un cynisme sans bornes, c'est en vertu de ses propres lois contre le brigandage que Murat est condamné. Avec hauteur, il refuse de comparaître, demande du papier et de l'encre pour écrire une dernière lettre à Caroline. Avec une grande sobriété, il prend congé de ce monde, fait ses adieux à son épouse et à ses enfants, demande à ses geôliers de leur remettre les derniers objets dont il dispose encore, auxquels il ajoute des boucles de ses cheveux. Pendant ces dernières heures, il parle beaucoup de ses campagnes, de sa fortune, des siens. Puisqu'il lui est offert les secours de la religion, il se confesse et prie avant de gagner la porte de sa cellule qui donne directement sur un petit promontoire. L'endroit est exigu, les soldats qui lui font face ne sont distants que de quelques pas. Avec beaucoup de courage, il refuse de s'asseoir sur le siège qui lui a été préparé et commande lui-même le feu en recommandant aux soldats de viser juste.
Cette semaine, nous fêterons la 3000e émission du Grand Direct des médias de Jean-Marc Morandini. Avec Europe 1 et MyTravelship.com, le tour opérateur online de séjours luxe et tendance, nous vous proposons de jouer pour un séjour de rêve d'une semaine à deux dans un hôtel 5 étoiles aux Seychelles. Avec MyTravelship.com, vous séjournerez dans une villa luxueuse avec piscine. Retrouvez les meilleurs bons plans d'ailleurs sur MyTravelship.com. Valeur de ce séjour exceptionnel, 10 000 euros. Pour jouer et tenter de gagner ce lot, envoyez dès maintenant le mot jeu, J-E-U, par SMS au 7 39 21, c'est 65 centimes plus le coût du SMS, ou appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Nous annoncerons le nom du gagnant ce vendredi à la fin de la 3000e émission de Jean-Marc Morandini sur Europe 1. Bonne chance à tous.
Europe 1. Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1.
C'est Joachim Murat qui est au cœur de l'histoire cet après-midi et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec vos invités. Vincent Aiguelet, historien, directeur des bibliothèques de Compiègne et auteur de Murat, La solitude du cavalier aux éditions Perrin. Louis Sampion-Bouglione, directeur de la communication et du musée du Cirque d'Hiver. Et le prince Joachim Murat, descendant direct de Murat.
Mais alors, que vient faire un homme de cirque dans cette affaire, Sampion-Bouglione? Merci d'être ici. C'est vous qui m'avez donné envie de parler de Murat à l'occasion de cette année du bicentenaire, puisqu'on va bientôt célébrer le bicentenaire de l'exécution de Murat, à l'automne prochain, en octobre prochain. Comment vous est venue la passion, vous? Parce qu'on peut dire que vous vivez un peu par et pour Murat, d'une certaine manière. Au-delà du cirque, bien sûr.
Oui, et depuis très longtemps. Mais il faut savoir que le cirque et l'histoire militaire ont souvent été liés.
Oui.
Dès la fin du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle. C'est l'aristocratie militaire qui crée le nouveau cirque. Les Hachelet, Franconi, puis Baucher sous le Second Empire sont tous des officiers de cavalerie qui ont apporté au cirque une de ses plus belles disciplines, l'art équestre. D'ailleurs, on a gardé beaucoup de codes vestimentaires, le dolman, les bottes à la hussarde, les brandebourgs font toujours partie du cirque. Il y a toujours eu ce lien, ce fil entre l'histoire, enfin l'Empire et le cirque.
Et vous me racontiez l'autre jour que quand vous étiez petit, vous rêviez sur de belles gravures en couleur représentant justement Murat dans des tenues extraordinaires. C'est comme ça que c'est venu, oui, d'une certaine manière.
Et mon père, qui était l'un des plus prestigieux écuyers de sa génération, un jour, on m'a offert les mémoires du capitaine Coignet. Bon, j'ai été très vite touché par la grâce, on m'en dit. Et bon, l'Empire, les chevaux, ça sentait déjà un peu la cavalerie. Et de fil en aiguille, ben, je suis arrivé à Murat. Et comment ne pas choisir le plus illustre des cavaliers comme icône?
Oui, donc on peut dire que ce cavalier vous a porté d'une certaine manière et vous avez ensuite étudié le personnage, étudié sa correspondance, notamment avec Caroline, on va y venir tout à l'heure. Un grand nombre d'auditeurs, alors je vous avoue que je suis un peu surpris, mais nous écrivent pour dire « Ah, pourquoi Joachim? Pourquoi ne dites-vous pas Joachim ?» Alors comment faut-il dire, Prince ?
Bonjour Franck. Alors écoutez, en fait, ça fait partie des aspects rigolos qui fait qu'on est absolument certain que Joachim Murat, c'était Joachim Murat, puisque c'est du bouche à oreille depuis Joachim. Parce que la particularité des chefs de famille, c'est qu'ils s'appellent tous Joachim depuis le petit-fils de Murat. Et alors la raison, pour ce que j'en ai compris, hein, c'est une version qu'on m'a donnée à laquelle je souscris, ce serait la différence Languedoc-Langue-d'Oyle. On dirait Joachim dans le nord et Joachim dans le sud, et lui c'est le Quercy, donc c'est le sud.
Et oui, voilà. Tout simplement.
Tout simplement.
Donc c'est bien Joachim Murat. J'ai eu peur un instant de m'être trompé devant l'avalanche de messages qui nous arrivent notamment par Twitter. C'est un personnage qui vous a forcément fasciné depuis toujours. C'est votre arrière-arrière-arrière-grand-père.
Alors je suis le neuvième Joachim. C'est en gros on est à la septième génération. Et alors effectivement c'est une chose sur laquelle on s'est rencontré très rapidement avec Sampion. Alors Sampion est un ami que je connais depuis 25 ans. Et alors le lien entre le cirque et l'armée est un lien aussi que je connais de près, puisque Sampion et moi avons fait du cirque quand je suis revenu des parachutistes. Et je dois dire que la discipline circassienne est à minima du niveau de la discipline des parachutistes, si ce n'est plus. Donc le personnage de Murat, hein, ben moi évidemment on m'accompagne depuis tout petit.
Et on en parle beaucoup dans la famille, j'imagine.
Et on en parle oui. Évidemment beaucoup. Ça fait partie quand même des sujets de base. La raison est également du fait que Murat est un personnage qui a été assez injustement traité par l'histoire, et notamment en premier lieu par les mémorialistes de l'époque, puisque le Premier Empire est une époque où on rédige beaucoup de mémoires, à commencer bien sûr par le mémorial de Sainte-Hélène, qui est un monument bien sûr d'auto-célébration
de Napoléon,
dans lequel il y a d'ailleurs
Lascazes
qui a déformé pas mal des propos de l'empereur il y a pas très très longtemps d'ailleurs. Jean Tullard lui-même avait démontré que certains courriers de Murat reproduits par l'empereur dans le mémorial de Sainte-Hélène pour faire porter à Murat
le chapeau
sur les erreurs commises en Espagne, les courriers reproduits étaient des faux, c'était tout simplement faux. Donc il y a d'affreux mensonges, et les mémorialistes qui ont ensuite également sali un petit peu la mémoire de Caroline et des Murat, comme la duchesse d'Abrantès, la reine Hortense, la comtesse... Oui.
Qu'est-ce que vous admirez, vous, chez votre ancêtre
Écoutez, Murat, si vous voulez, on est sur un enfant du Quercy, qui est le 11e enfant d'une famille alors extraordinairement modeste. Et alors, ce jeune garçon, qui est le 11e enfant, dont sa mère va lui donner naissance, elle a 46 ans. Oui, donc c'est tout de même un peu un miracle lui-même. Va devenir évidemment soldat de l'an 2, alors qu'il était prévu pour devenir séminariste. Très rapidement, évidemment, l'habit de séminariste va pas lui convenir. Ensuite, général de la Révolution, maréchal, grand amiral, prince, grand-duc de Berg.
Et puis finalement, roi de Naples.
Murat, c'est le rêve américain sous vitamine, si vous voulez. C'est un truc qu'on peut pas rêver mieux. Même plus à l'ailleurs que Bonaparte, parce que Bonaparte, lui, commençait moins de rien. Murat commençait vraiment de absolument nulle part. Et avec les réalisations incroyables de Murat, vous me recevez aujourd'hui Franck en m'appelant prince. Donc vous voyez un petit peu les héritages que la réussite colossale de ce personnage.
Quand vous êtes entré dans le studio, Vincent Aiguelet, vous avez dit au prince Murat, mais c'est fou ce que vous lui ressemblez.
C'est vrai.
Physiquement.
Physiquement. Oui.
Comment était-il ? Expliquez-nous.
On a la chance d'avoir pas mal de portraits qui ont été conservés. Alors évidemment, les peintres de l'époque ont un peu parfois enjolivé. Hein. C'était normal, c'était de bonne guerre. Aujourd'hui, on retouche les photos sur Photoshop. À l'époque, on demandait aux portraitistes d'améliorer le trait. Néanmoins, je crois qu'on sait que effectivement que Joachim Murat était un très bel homme qui portait très haut son 1m80 et qui impressionnait beaucoup par les boucles de sa chevelure. Boucle que le prince n'a pas.
Hein. Non, c'est vrai.
Et donc, il y a toute une suite de portraits parfois assez... le plus célèbre d'entre eux, c'est notamment Murat chevauchant... avec une peau de tigre en dessous, sous les reins. Moi, ce que j'aime plus et qui est plus proche de la réalité, c'est les dernières réalisations d'Ingres, notamment. On a des esquisses qui donnent parfois juste la silhouette du roi Murat. On voit qu'il aimait bien les plaisirs de la bonne table parce que sa silhouette s'était considérablement aussi alourdie avec les années.
Alors, on ne sait plus trop comment l'appeler, vous dites vous-même, le roi Murat, parce qu'il est donc roi de Naples. Il a failli être roi d'Espagne.
Il a failli être roi d'Espagne, il a même concouru pour être roi de Pologne.
Et oui.
Et sans doute, peut-être, que la Pologne lui aurait mieux convenu, parce que c'est une nation de cavaliers, des plaines immenses, des rassemblements très virils, en gros, tout ce qu'il appréciait. Et on sait que, notamment Fouché, alors ministre de la police de Napoléon, a soutenu cette candidature à la couronne polonaise, qui n'a pas abouti en raison de l'opposition des Russes. Mais effectivement, il a été à un moment donné pressenti pour être roi d'Espagne, mais peut-être qu'il faut tempérer néanmoins cette présomption, parce que Napoléon n'avait aucunement l'intention de faire son beau-frère roi d'Espagne. Et surtout, le problème, c'est que Murat est tombé gravement malade en Espagne. Et on ne sait toujours pas trop ce qui lui est arrivé, entre l'empoisonnement involontaire, la dépression qui le guettait.
Disons qu'il n'a pas laissé un bon souvenir aux Espagnols, c'est le moins qu'on puisse dire.
Non, malheureusement, non. Alors, là aussi, gardons-nous bien seulement s'arrêter au tableau de Goya,
oui.
Parce que c'est une représentation a posteriori, le 12 et 13 des maillots à Madrid.
2 et 3 mai.
de Étroit-Mem 1808. C'est vrai que c'est une tragédie pour la population madrilène, mais il faut relativiser par rapport au reste du pays et avec les moyens de l'époque. Pour Napoléon, c'est une petite fusillade.
Oui. Il y a quand même un côté tête brûlée chez Murat. Il fonce à la tête de sa cavalerie, bride abattue, c'est le cas de dire, au milieu du feu. On va y venir dans un instant, ce caractère totalement emporté. Et puis quand même, disons-le, derrière ce caractère emporté, une certaine inconsistance politique peut-être. En tout cas, je laisse un point d'interrogation sur la question. Nous y venons dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Joachim Murat, avec vos invités, Vincent Aiguelet, historien, directeur des bibliothèques de Compiègne et auteur de Murat, La solitude du cavalier aux éditions Perrin, Louis Sampion-Bouglione, qui est directeur de la communication et du musée du cirque d'hiver, et le prince Joachim Murat, descendant direct de Murat.
Alors, je sais que Joachim Murat brûle d'impatience de défendre l'héritage politique de son ancêtre, mais avant cela, j'aimerais qu'on dise un mot de Caroline. D'ailleurs, il y a chez Perrin également une biographie de Caroline Bonaparte, sœur d'empereur et reine de Naples, signée Florence de Baudus. C'est presque, on pourrait presque faire un coffret avec vos deux biographies, Vincent Aiguelet. Hein.
Surtout que nous avons des sources communes, parce que, et je la remercie encore, Florence de Baudus descend, elle, d'Amable de Baudus, qui est le gouverneur des enfants Murat, donc en fait leur professeur particulier. Et elle a gardé des papiers privés extraordinaires.
On a l'impression que cette famille Murat traîne dans son sillage un certain nombre de personnes. Que c'est presque une cour, c'est peut-être beaucoup dire. Enfin, il y a tout un monde autour de vous, Joachim Murat.
Il y a tout un monde autour de nous, autour de Murat et autour de son souvenir, absolument.
On y vient à la consistance politique. Là, je vous parlais de sa postérité. On y vient. Avant ça, continuons avec Caroline. Personnalité extraordinaire. Je disais tout à l'heure, un monstre d'ambition. Est-ce que le terme est peut-être un peu excessif?
C'est l'image qu'elle a laissée pour la postérité. En réalité, c'est vrai qu'elle défendait très bien les intérêts de son mari. Et les siens également. Elle a rêvé d'une couronne, à tel point que son frère Joseph Bonaparte, à un moment où de céder Naples, a essayé de donner la couronne de Naples à sa sœur et non pas au beau-frère.
Oui, elle aurait pu être elle-même reine de Naples.
Exactement.
Et non pas reine consort, ce qu'elle était en fait.
D'ailleurs, dans les termes de la cession, il était question que Caroline succède à son mari en cas de décès et non pas son fils.
Oui. Ça a été un couple, comment le définiriez-vous?
Un couple très uni, malgré beaucoup de médisances.
Qui venait d'où?
Ah, les médisances venaient de la cour, évidemment.
Et de la cour de France. Hein,
la cour
préciser.
De France, principalement, ouais. Mais également de la cour de Naples, parce que, notamment, l'une des plus belles fabrications, c'est la fameuse accusation de Caroline, qui aurait eu des aventures avec le ministre de la guerre et de la marine, qui, en fait, était une fabrication du préfet de police de Naples, parce que c'était la guerre des services, déjà, à l'époque.
J'ai parlé tout à l'heure de Iéna, Erfurt, Hello, etc. Comment pourrait-on définir le rôle de Murat dans les grandes batailles de l'Empire?
Alors, Murat commande la plupart du temps la grande réserve de cavalerie. C'est-à-dire qu'il se tient la plupart du temps à l'extérieur de l'action jusqu'au moment où il faut intervenir. Il est rarement en première ligne pendant la bataille, mais ensuite il s'occupe souvent, notamment le cas à Iéna, il s'occupe du moment le plus important qui est la poursuite, c'est-à-dire le moment où il faut absolument rejoindre l'ennemi en déroute et le détruire, c'est-à-dire le couper de tous ses points de communication, l'encercler. Et c'est ce qu'il fait en 1806.
Alors, il a tôt pris ses distances avec Napoléon. Il n'en a pas moins participé ô combien à la campagne de Russie. Ça se gâte au retour, si je puis dire. Et là, carrément, il va négocier avec les ennemis de l'Empire. Que se passe-t-il? Est-ce que Murat est un traître d'une certaine manière?
Eh bien, je suis assez pondéré quant à l'utilisation du mot traître.
Je vous provoque.
Non, mais je ne dis pas ça non plus parce que nous avons le descendant en direct. Mais je le dis exactement dans les mêmes termes. Murat estime qu'il est devenu souverain à part entière et voilà. Qu'il a le droit de changer d'alliance.
Et qu'il défend les intérêts de son propre royaume. Alors, c'est le moment de parler de l'héritage politique, là, vraiment, prince.
Murat, parce que vous aviez raison, il y a effectivement cette image de Murat, maître de guerre. C'est le plus grand majordome de toutes les armées impériales, et d'ailleurs à tel point qu'en 1808, quand Talleyrand et Fouché craignent la mort de Napoléon, ils envisagent immédiatement Murat pour succéder à Napoléon.
Oui,
personne
oui,
d'autre
oui.
que Murat. Donc s'il y avait une inconsistance politique, aurait-on pensé à nommer Murat? À la tête de l'Empire. Alors, il est évident que ça,
c'est qu'il y a un certain flottement, parfois.
Alors, j'y viens immédiatement et je vais vous démontrer ça en trois points. Alors, le premier point, c'est que Murat, dont on fait un sabreur borné, il ne faut pas l'oublier, a quand même soutenu sa thèse dans le latin. Était un authentique lettré, a été un défenseur acharné des arrêts de la culture
ça,
à Naples.
Oui, ça, on n'en doute pas.
Et ça a été une des plumes perdues de Lamartine. Je ne sais pas si vous connaissez cet exercice que Lamartine a fait en étudiant les correspondances des grands hommes de l'histoire, de vérifier lesquels auraient pu être de très grands auteurs de langue française. Et il en identifie deux, Catherine II de Russie et Murat. Donc c'est là-dessus, je pense que sur la capacité culturelle, cette espèce d'amoureux des arts et de la culture, il a relancé Pompéi, Herculanum, l'urbanisme en Inde.
Si vous avez encore deux arguments, il faut les dire très vite, car il vous reste 20 secondes.
Alors sur les 20 secondes, je vais lire immédiatement. Donc je vais tout simplement citer Jean Tullard. Qui dans son livre sur le Grand Empire écrit « Ainsi, c'est Murat qui a dans la tête une Europe des nations qui eût été la plus solide que le Grand Empire et eût évité les révolutions de 1830 et 1848 entre deux oncles, Napoléon Ier et Murat, c'est du second que Napoléon III est le véritable héritier. » C'est-à-dire que c'est Murat qui a eu cette espèce d'instinct des nationalités, du principe des nationalités. C'est Murat, c'est le seul parti au monde, le parti muratiste, qui s'est clos du fait de sa réussite. L'Italie est indépendante. Et je vous invite à découvrir les cavalcades de Murat au travers du livre de Louis Sampion Bouglione.
Eh bien, justement, j'y viens à ça, j'y viens. Vous êtes en train de préparer un livre, Sampion Bouglione, sur la correspondance et un certain nombre de lettres inédites de Murat.
Alors, ça fait plus de 25 ans que je recherche la moindre de ces lettres. Oui. C'est mis dans des collections privées aux archives, ou dans des archives publiques. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer aussi bien en France qu'à l'étranger des collectionneurs qui m'ont ouvert leurs archives. Parce qu'il me fallait en découvrir autant qu'il était possible. Et ce qui est fantastique avec Murat, c'est que dans le sillon de sa plume, on découvre l'homme derrière le mythe. Murat maniait la plume comme il le faisait du sabre avec une dextérité sans pareil. Donc il m'a semblé évident de vouloir partager l'inédit 120 lettres de Murat à travers un livre haut en couleur.
Il sort quand ce livre ?
Il sort début juin.
Et on peut se le procurer. Je crois qu'il y a une souscription, vous m'avez dit.
Il y a une souscription, oui, on peut l'avoir sur www.lettresdunroi.com. Enfin, c'est le livre que j'aurais aimé trouver.
Et je suis persuadé que parmi nos auditeurs, il y a des admirateurs, des élateurs de Murat, et qu'ils vont se faire un devoir de participer à cette souscription. Donc le livre, vous nous redonnez la date, quel moment ?
Début juin, mais on peut se le procurer dès maintenant sur www.lettresdunroi.com.
Pour le reste, car nous n'avons fait évidemment qu'effleurer une matière dont vous aurez compris qu'elle est particulièrement foisonnante, je vous renvoie à la biographie de Vincent Aiguelet, Murat, la solitude du cavalier, c'est aux éditions Perrin. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir fait partager votre amour du personnage. Bonjour Marion Ruggieri.
Bonjour Franck.